Amis, je suis vraiment dans la joie, la reconnaissance de venir dans cette communauté où je sens cet amour, ce lien entre frères et sœurs. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, c'est quelque chose de formidable de venir. Je voyage passablement. J'ai eu la semaine passée deux services d'adieu de deux sœurs dans le Seigneur, une 3 ans plus âgée que moi, une autre. J'ai déjà 70 ans, mais qui est parti. Et c'était dans la chapelle Saint-Roch à Lausanne. Et j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, tellement beau. Parce que le papa m'a dit, enfin le mari, le papa de ses enfants m'a dit, tu prêches l'évangile. Vous savez, quand on ne connaît pas la famille, parce que le mari, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas la famille, je ne connaissais pas les enfants. Et quand j'apprends, puisque je prêchais dernièrement à Bâle, quand j'apprends que Evelyne est décédée, elle venait dans notre église, je dis, bon, je connais pas le mari, je connais pas les enfants, est-ce qu'il connaît le Seigneur? Premier contact, c'est pas toujours évident. Mais j'aime tellement ce chant, merci à notre sœur pour ce chant. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'arrive là, eu des larmes et cet homme, une année plus jeune que moi, me dit, David, prêche l'évangile. Dans cette chapelle Saint-Roch à Lausanne, je sais pas si vous connaissez. Et là, j'ai pu prêcher l'évangile de se préparer, car les temps sont sérieux. On peut partir jeune, on peut partir moins jeune. Et puis, comme disait Christine, c'est vrai que on voit des gens de notre âge, déjà plus jeunes, tout d'un coup, ben voilà, partir, quitter cette terre, d'où l'importance d'être prêt à rencontrer notre maître. Mais je disais aussi à quelqu'un, mais j'ai dit, tu t'imagines ce que le Seigneur a préparé pour toi. Une maison. Je sais pas, on a tous devant nous un endroit, peut-être que nous aurions tellement souhaité aller. Et puis, cet endroit, peut-être, on n'a pas pu y aller, peut-être manque de moyens, ou peut-être qu'on a eu l'occasion d'y aller, puis vous étiez la bouche bée, comme ça. Mais c'est quoi ça à comparer de ce que le Seigneur nous a réservé? Waouh! Quand on entrera dans sa présence, waouh, moi je me réjouis. Je me réjouis. Oh, ça me donne même les larmes aux yeux. Je me réjouis de rencontrer celui qui m'a tant aimé. De rencontrer celui qui vous a tant aimé. Et ce matin, encore une fois, merci infiniment pour cet accueil. Merci Robert. Merci à notre sœur pour ce chant. J'aime ta présence. Et j'aimerais parler ce matin d'une rencontre avec le ressuscité. Il était mort. Nous venons de célébrer en quelque sorte sa mort. Vous savez que la résurrection, s'il y a résurrection, il a fallu automatiquement une mort, Vendredi Saint. Et puis, cette rencontre avec le ressuscité, j'ai essayé de revivre et de me mettre un peu dans la peau de ses disciples. Combien de fois le Seigneur leur avait dit, je vais mourir et je vais ressusciter. Mais eux n'avaient pas compris. Et puis, ça me touche parce que ces personnes, ces disciples, ils avaient tout perdu, mais complètement tout perdu. Ils étaient dans le désarroi le plus total. Ils avaient, n'oublions pas, ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Puis maintenant, tout s'écroule. Je sais pas si vous avez vécu des situations où tout d'un coup, tout s'écroule devant vos yeux. Ils n'avaient vraiment pas compris ce que le Seigneur leur avait dit. Et puis, alors la Bible nous dit qu'ils étaient enfermés dans la chambre haute, dans la tristesse, dans le désarroi. Et voilà que Jésus apparaît au milieu d'eux, la paix soit avec vous. Combien avait-il besoin de cette paix? Mais c'est vrai que le Seigneur, il savait qu'il était ressuscité. La Bible nous dit qu'ils étaient quand même dans la joie. Mais c'était plus la même chose qu'avant. Ils n'avaient pas compris, c'est plus la même chose. Jésus n'était plus présent, toujours à côté d'eux. Oui, il venait, mais il avait le corps glorifié, puis il partait. Alors, voilà que j'aimerais partager avec vous une rencontre avec le ressuscité dans l'évangile de Jean au chapitre 21, les 14 premiers versets. Jean chapitre 21, les 14 premiers versets. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade ou lac de Galilée. Et voici de quelle manière il se montra Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il leur dit, « Allons, nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ de 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en ait un, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» Sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fut de même du poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Dans ma préparation, j'ai pensé que ce serait bien de structurer un peu ce message en quatre points. D'abord, Pierre va dire « Je vais pêcher ». Deuxièmement, Jésus se trouve là sur le rivage et leur pose cette question « N'avez-vous rien à manger ?» Troisièmement, la solution, jetez vos filets. Et quatrièmement, venez manger. Pierre était résolu. Jésus venait, comme je le disais tout à l'heure, il venait de temps en temps y trouver, il apparaissait, mais il connaissait son métier. Alors, plein impulsif, on connaît Pierre, moi je vais pêcher. Certainement, il connaissait son métier. Donc, se disait-il, ça va jouer. Mais j'ai une parole qui m'a été révélée pendant ma préparation. Jésus dit à l'église de Philadelphie, « J'ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Je ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir. » Donc, Pierre et ses compagnons d'infortune partent. Et ils partent en ayant, vous serez d'accord avec moi, je pense que pour des professionnels de la pêche, S'il partait le soir en disant, on va rien prendre cette nuit. Mais je pense qu'il partait en ayant la certitude, on va faire une pêche magnifique cette nuit. Mais je me suis posé la question, avait-il oublié ce qui est dit au psaume 127? Si l'Éternel ne construit la maison, si l'Éternel ne construit la ville, si l'Éternel ne construit la famille, ceux qui la construisent, construisent en vain. Avait-il oublié le message que Jésus leur a adressé dans Jean 15? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce sans moi m'a été tout à nouveau révélé. Parce que vous savez, je dirais, on commence à être habitué à force de prêcher, à force de visiter comme pasteur. Mais faisant attention de l'habitude, faisant attention de, oui, mais ça roule. Toujours besoin. Je dis, ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour que le cœur de mes frères et mon cœur puisse être tout à nouveau touché par ta présence. Parce que je pourrais dire des belles paroles, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, ça sert à rien. Avait-il oublié, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Pierre avait-il oublié? Vous connaissez l'autre pêche miraculeuse quand Jésus était sur la terre et qu'il avait vu Pierre, il a dit, avance en pleine eau, Pierre lui avait dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et puis, il avait aussi ramassé une quantité de poissons. Et quelle avait été la fin de cette histoire? Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Avait-il oublié? Mais je me suis dit, mais combien de fois je ressemble à Pierre et à ses compagnons? Nous ressemblons aussi à Pierre et ses compagnons. Nous devenons des indépendants. Nous n'avons plus nos yeux fixés sur le Sauveur, sur le Seigneur. Alors, le résultat des courses, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Pas un seul poisson. C'est déprimant pour des pêcheurs professionnels. Toi, je sais pas si tu étais pêcheur, Ralph, mais tu as eu côtoyé des pêcheurs. La joie qu'ils ont quand ils ont du poisson. Ben oui, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Après une nuit fatigante, une nuit harassante, ils sont vides, de chez vides. Filets sont vides, l'estomac est vide. Ils sont dans le désarroi. Et certainement, disait-il, combien c'était bien quand Jésus était avec nous dans la barque. Mais Jésus était là d'une autre façon. Deuxième point, Jésus se trouve sur le rivage. Jésus se trouve sur le rivage de notre vie, tout près de nous. Et j'en ai fait l'expérience, malgré les vicissitudes par lesquelles je suis passé, par les épreuves que je suis passé, que vous êtes passé. Jésus se tient là sur le rivage de ta vie. Et pose cette question aux disciples. N'avez-vous rien à manger? Mais pourquoi tu poses une question qui fâche? On peut se poser, pourquoi tu poses une question qui fâche? N'avez-vous rien à manger? Tu vois pas que les filets sont vides? Mais le Seigneur, il est sur ce rivage et il est au courant de tout ce qui s'est passé la dernière nuit. Alors pourquoi pose-t-il cette question? Il voit leur cœur, il connaît leur estomac aussi. Alors qu'ils sont dans la barque, que tout est vide, Jésus ne va pas leur adresser d'abord des reproches en disant, mais, les gars, vous voyez pas? Vous voyez pas que, qu'est-ce que vous faites? Elle est où votre espérance? Mais Jésus ne leur adresse aucune reproche. Mais j'étais particulièrement, je connais ce texte, mais j'étais particulièrement touché avec quel amour Jésus va leur parler. Il va leur dire enfin. Il leur a pas dit, merde. Ça va bien. Vous connaissez, je vous avais pas enseigné d'aller pêcher. Il leur dit, enfin, n'avez-vous rien à manger? Et ce qui me touche, c'est avec quelle douceur, avec quel amour le Seigneur s'adresse à nous. Même si tout d'un coup, il nous arrive de faire un petit excursus, d'être plus tellement dans la lignée, dans la pensée du Seigneur. Le Seigneur, par son amour, par sa sagesse, par son affection, nous adresse des paroles de grâce, jamais de reproche. Il nous accuse, il nous pousse, mais regarde, tout fiché en l'air. Tandis que Jésus nous dit, viens, je suis à même de t'aider, je suis à même de te fortifier. Alors, pourquoi Jésus pose cette question? N'avez-vous rien à manger? Jésus désire, vous savez que les psychologues et les psychiatres disent que quand on fait une dépression, souvent, dans un mur, vous êtes peut-être arrivé, on veut pas parler. On est pris par une agoraphobie, c'est-à-dire on a peur de la foule, on veut pas parler aux gens. Et peut-être que, je sais pas, ça vous est arrivé, peut-être que vous vivez ça, des moments difficiles, puis le Seigneur veut entrer en dialogue avec toi. Il veut te dire, mais, enfin, est-ce que t'as encore à manger? Est-ce que ton cœur est vide? T'en es où avec moi? Je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. J'entends le Seigneur parler à mon cœur. Lancer dans ses bras, me lancer dans les bras du Seigneur, dire Seigneur, merci, merci, parce que tu as tout accompli pour moi. Jésus aimerait que nous entrions en dialogue. N'avez-vous rien à manger? Jésus désire que nous puissions partager nos peines, nos désarrois, nos angoisses. Et alors, il faut être vrai. De toute façon, le Seigneur connaît tout. Ils n'ont pas voulu jouer bonne mine à mauvais jeu. On cache les filets, on veut rien dire. Jésus connaît tout. Il aurait pu cacher les filets. Non, il connaît tout. C'était une honte pour eux de ne pas avoir pu pêcher quelque chose. Mais ils vont dire, non, Seigneur, non, on n'a rien. On n'a rien. J'arrive au troisième point. Jésus a la solution. Jetez vos filets du côté droit. À des pêcheurs chevronnés. On m'a dit que le matin, c'est pas le bon moment pour aller pêcher. J'aurais pu lui dire, mais, on connaît notre métier, on sait. On sait que le matin, non. Ils obéissent texto à la parole du Seigneur. Peut-être se souvenaient-ils tout d'un coup qu'il y avait déjà, ils avaient une pêche miraculeuse. Mais là, Jésus va leur dire, jetez vos filets du côté droit de la barque. Jésus a montré qu'il a la solution et qu'il est la solution. Qu'il est la solution au problème. Il est la solution à tous nos problèmes, tout au long du pèlerinage de Jésus. On voit que Jésus, il est confronté à des lépreux, à des aveugles. Il va leur dire, que veux-tu que je te fasse, Seigneur? Pour un aveugle, est-ce que moi, je peux guérir, je peux rendre la vue à un aveugle? Je ne vais pas encore lui dire, que veux-tu que je te fasse, que tu supplies? Oui, Jésus veut entrer en dialogue. Quel est ton désir ce matin? Est-ce que ton désir, ton cœur, c'est d'être toujours plus près du Seigneur? Chers amis, moi, ça me touche quand j'assiste des personnes dans leur dernier voyage et qu'ils disent, je connais Jésus, j'aime Jésus, je me réjouis d'aller vers mon Seigneur et mon Dieu. Quelque chose de formidable. Comme je vous l'avais dit, comme ma femme avait dit à l'oncologue, l'infirmière de l'oncologie qui était venue la trouver, quand cette infirmière lui avait dit, mais Madame Richard, quelle est votre perspective? Quelles sont vos perspectives d'avenir? Puis elle qui était tellement, tellement défaite avec la chimio et tout, elle avait une perruque. Moi, j'ai plus. Je me souviendrai toute ma vie. Il y a l'illumination du ciel qui est venue sur elle. Je vois toujours son visage rayonnant dire, Madame, je vais vers celui qui m'attend dans le ciel. Et cette femme qui était, c'est pas à moi de dire, mais je pense pas qu'elle était engagée, elle a commencé à pleurer, elle a dit, j'ai jamais vécu un amour aussi grand. Alors c'est vrai que le Seigneur désire que nous puissions entrer dans sa solution, il a la solution. Cette histoire est pour moi très riche en enseignement. Dieu permet des situations dans nos vies, alors que nous voulions nous débrouiller, alors que nous voulions pêcher nous-mêmes, entre guillemets. Et puis, il arrive dans nos vies des situations de faillite. Oh, ça m'est arrivé. Non, ne vous est-il jamais arrivé que tout d'un coup vous pensiez bien faire, et puis tout d'un coup vous regardez en arrière dans le rétro, mais non, j'ai fait tout faux. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, on peut toujours revenir, dire Seigneur, je m'approche de toi, je m'approche de toi, je te demande pardon, Seigneur. Mais Seigneur, et il nous rétablit. On voit même dans l'histoire de Jonas, Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais il le rétablit dans l'ordre qu'il lui avait dit, ben va maintenant à Ninive. Alors pourquoi je dois vivre ces faillites? Pourquoi je dois vivre des moments des fois de désespoir, des moments où plus rien ne va? J'ai plus rien dans mon filet. Afin que je reconnaisse que sans lui, je ne peux rien faire. Afin que l'on reconnaisse. Pensez à ces paroles, afin que l'on reconnaisse, que vous puissiez reconnaître. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Deuxièmement, afin que j'apprenne que Jésus n'est jamais embarrassé devant une porte fermée. Jamais. Jamais. Il n'y a plus de poisson, C'est pas le temps d'aller pêcher, aller jeter. Il a la solution. Il a la solution pour ta vie. Quelle qu'elle soit, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes points d'interrogation, il a la solution. Et puis, alors vous pouvez vous imaginer, ces disciples, ils arrivaient presque plus de tirer le filet tellement qu'il y avait des poissons dedans. Les commentateurs disent que c'est Jean, il y a Jean, mais là, ils disent que c'est Jean. Jean va dire, mais Pierre, c'est le Seigneur, il ne l'avait pas reconnu. Mais c'est le Seigneur. Personne d'autre peut faire ça que le Seigneur, c'est Jésus. Et là, Pierre va, dans son enthousiasme, sauter du bateau. Mais avant de sauter du bateau, la Bible nous dit qu'il était nu. Et là, il me semble de voir aussi une pensée spirituelle. Il s'habille, se revêt de son manteau, de la ceinture, pour aller rencontrer le Seigneur. Vous savez que la Bible nous dit dans Corinthiens que nous puissions une fois voir le Seigneur, non pas nu, mais revêtu. Que Dieu nous revête de son habit de la justice de Dieu, qu'il puisse nous revêtir de cet habit de la justice et qu'on ait autour de nous la ceinture de la vérité. Amen. Et ça m'a touché parce que Pierre, il va aller rencontrer le Maître, il va aller rencontrer le Seigneur, habillé en bonne forme pour aller rencontrer celui qu'il aime. Pierre veut être respectueux envers celui qu'il avait renié. Il se rhabille. Et alors, voilà qu'ils accostent. La Bible nous dit que c'était 200 coudées, c'est environ 100 mètres de la berge, du bord. Imaginez ces disciples, j'aimerais vous mettre un peu dedans. Ils ont l'estomac vide depuis quand ils avaient jeûné ou plus mangé. Tout d'un coup, il y a le fumet du poisson grillé. Vous savez que ça commence à faire des gargouillis dans l'autre. Waouh! Puis, ils ont reconnu, enfin, Pierre, Jean reconnaissent que c'est Jésus. Et il y a ce fumet, cette fumée du poisson. Et puis, aussi, là, ce feu, ils arrivent. Ils arrivent là, près du feu. Et ça les touche. Jésus veut leur dire par cela, avec ce tableau. Jésus veut leur dire, je suis le même. Quand je cheminais avec vous, lorsque vous aviez fait cette pêche miraculeuse, suite à mes paroles, je suis le même. Je suis le Tout-Puissant. Je suis à même de vous donner du pain quotidien. Je suis à même de vous donner du poisson, quand bien même ils n'avaient encore pas amené leur poisson, ils venaient de pêcher. Je suis le pain de vie, ce pain qui nourrit. Celui qui me mange sera rassasié, nous dit la Bible. Mais Jésus veut s'associer à cette pêche miraculeuse, une pensée. Dieu désire que ce que nous prenons, ce que nous gagnons, c'est seulement... Je disais dans mon cœur, c'est seulement grâce à toi tout ce que nous pouvons gagner, que ce soit notre salaire, que ce soit des bénédictions, c'est grâce à lui, n'est-ce pas? C'est uniquement grâce à lui. Et Dieu veut que nous lui apportions, puisqu'il a dit, Jésus dit là, apportez quelques poissons que vous avez amenés. Alors Dieu veut que nous puissions l'honorer en lui donnant une partie de nos revenus, une partie de ce que nous avons gagné. Alors imaginez la scène, on ne sait pas si tous l'avaient reconnu, peut-être certains avaient encore des doutes, mais voilà que Jésus, là, sur le bord du rivage du lac de Galilée, avec ce feu, avec cette odeur de poisson, il leur dit, et c'est le quatrième point, Jésus leur dit, venez et prenez. Venez, prenez. Approchez-vous, venez. Le Seigneur nous dit ce matin, il faut qu'on s'approche de lui. Jésus s'approcha, prit le pain, il s'approcha d'eux. Alors, est-ce qu'il n'osait pas lui poser des questions parce qu'il savait que c'était Jésus? Mais Jésus s'approche d'eux et Jésus veut s'approcher de nous. Quelles que soient nos difficultés, quel que soit le chemin par lequel nous passons, Jésus veut venir à notre rencontre. Il s'approche de toi ce matin. Il s'approche de vous, quelles que soient vos difficultés. Il aimerait vous rencontrer. Il aimerait dialoguer avec vous. Imaginez la joie dans le cœur des disciples. Wow. On a retrouvé notre maître. On a retrouvé quel repas qui faisait penser aussi à la Sainte Cène. Moi, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas parlé qu'il y avait le vin là, mais il y a le pain qui représente le poisson. Mais la Bible nous dit que c'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. J'ai dit, mais Jésus, là, au bord de ce lac, ne va leur adresser aucune reproche. Il aurait pu dire, mais vous saviez que ça ne jouait pas. Pourquoi vous n'avez pas mis votre confiance en moi? Non, il va communier. Et le Seigneur aimerait bien communier avec vous. Je peux vous dire, j'ai participé avec mon épouse à un voyage avec Michel Renevier, le pasteur Michel Renevier qui est dans la gloire, en Israël. Et nous avons communié au jardin du souvenir près de la tente, peut-être plusieurs sont allés. Nous avons pris la Sainte Cène. Et là, j'ai de la peine à retenir mes larmes, dire, Seigneur, là, nous prenons cette communion-là où tu as souffert. Enfin, c'est ce qu'ils disent, souffert, et puis il y avait le tombeau vide. Seigneur, merci parce que tu l'as fait pour nous. Et le Seigneur aimerait communier avec chacun de nous. Ça vous arrive peut-être aussi des fois à la maison de prendre un peu la Sainte Cène, de dire, Seigneur, on veut prendre cette Sainte Cène. En pensant à toi, en disant, Seigneur, c'est ton corps qui a été brisé, qui a été malmené, qui a été brisé, qui a été cassé pour nous. Et lorsque nous prenons soit du jus de raisin ou du vin, mais vous savez, même en Afrique, on prenait du sort de coca, enfin, c'est le symbole. C'est le symbole parce que, juste pour la petite anecdote, chez nous, à Estavayer, vu qu'on avait parmi nous des anciens alcooliques, alors on a essayé de donner la Sainte Cène en mettant d'un côté le vin, des petites coupes, de côté le jus de raisin, puis tout d'un coup, ceux qui distribuaient se sont mélangés les pinceaux, excusez-moi l'expression, et puis ceux qui étaient alcooliques ont pris le vin, puis ils ont commencé à crier, mais c'est quoi ça? Bon, là on a pris une solution, on a dit, on va prendre du jus de raisin pour communier. Parce que quand vous prenez les textes, c'est marqué le fruit de la vigne. Fruit de la vigne. Mais c'est terrible comment on est pris par du légalisme parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont rebellées, qui ont dit, quoi? C'est pas la Sainte Cène, ça prend pas du vin. C'est pas la Sainte Cène. Ah, ça, il faut que je prenne, j'ai pris mon épée, je suis allé les trouver dans la douceur. Mais regarde ce qu'il est dit dans la Bible. C'est simplement le symbole, le symbolisme. Tu prends ça, mais tu dis, ben, Seigneur, ça représente ton sang. Vous savez, vous connaissez tout le problème qu'il y a eu entre les réformés et les catholiques, hein, eux qui pensent que dans le vin, c'est le sang réel du Seigneur. C'est pas ça. Faites ceci en mémoire de moi, dit le Seigneur. Et là, ces disciples qui sont là, au bord du lac de Génézareth, sont là. Quel spectacle merveilleux. Nous avons retrouvé notre maître, celui qui nous a tant aimés. Il est ressuscité. Alors, j'ai encore une question hein, que je me pose. Quel aspect avait Jésus? Ils l'ont pas reconnu, j'ai dit, mais attends. Pardon? Ouais, voilà. Voilà. Mais j'ai dit, mais ils l'ont pas reconnu, mais quel aspect avait Jésus? Il avait ce corps glorifié. Enfin, il venait, puis il partait. Parce que souvenez-vous ce que Jésus a dit à Marie de Magdala. Alors qu'elle était ressuscitée, ne me touche pas, parce que je suis pas encore retourné vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Et je faisais la réflexion avec un jeune que je suis, un jeune qui est officier, capitaine à l'armée, mais qui vit des moments difficiles de dépression, pour dire, vous allez dire, ouais, mais un officier, un capitaine en armée. Et ce jeune qui pourrait être mon fils, combien de fois il me dit, il est à l'université à Fribourg, il me dit, mais j'ai des problèmes, j'ai des luttes, parce que figurez-vous que ce jeune, il s'est tourné vers le Seigneur, je l'ai connu petit, il s'est tourné vers le Seigneur, il a suivi le Seigneur, et aux études, ben voilà, il a pris une certaine distance avec son maître, avec ce Jésus, puis il a commencé à fréquenter une fille, mais qui ne connaissait pas Dieu. Et voilà que le Seigneur, cette semence qui avait été semée dans son cœur, vous savez, elle lève à un moment donné, elle a relevé, Et lui est allé vers sa copine en disant, moi je prends une décision, je veux revenir au Seigneur, je veux suivre Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute mon énergie. Elle lui a dit, tu peux faire ce que tu veux, mais je ne te suivrai pas. Un gars de 29 ans, Tobias, je peux vous dire son nom, il a pris sa copine, il a dit, écoute, je vais te ramener chez tes parents. Alors, vous voyez, maintenant, il y a des combats, parce qu'au moment où tu veux suivre le Seigneur, il y a des terribles combats où les hordes de Satan sont là pour te tenter, pour essayer de dire, mais on a prié. Et je disais, mais Tobias, il est revenu vers moi hier soir, il me dit, est-ce que je peux venir prier chez toi? J'étais bien, pas de problème, viens seulement. On a prié ensemble. Et j'ai dit, mais on veut communier, on veut prendre ensemble, on veut partager. Et puis, on a pu prier. Et j'ai dit, mais imagine, le Seigneur te dit, je vais te préparer une place dans le ciel. Et je lui ai dit, ce que je dis là ce matin, j'ai dit, mais imagine, Jésus, quand il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Mais imaginez quand Jésus est arrivé dans la gloire, ces myriades et myriades d'anges, c'est une ovation. Tu as gagné, tu as remporté la victoire. Et nous avons un Seigneur qui a remporté toutes les victoires. Alors, laissons-nous pas prendre par le désespoir, par le désarroi. Si nos filets sont vides, si nos cœurs sont vides, nous avons Jésus qui est la solution, qui est notre solution pour nous amener à une totale victoire. Il veut remplir nos cœurs, il veut remplir nos filets afin que nous puissions aller de l'avant jusqu'au jour de son retour où nous pourrons dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, tu m'as tout à nouveau touché. Avec quel amour, avec quelle compassion tu as rencontré ses disciples, tes disciples. Et combien, Seigneur, tu es plein de compassion pour nous rencontrer ce matin, pour nous dire, c'est pas terminé avec moi, moi j'ai pas terminé avec toi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai appelé, c'est pourquoi je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Seigneur, merci, tu connais chacune et chacun ici présent. Seigneur, tu connais aussi les problèmes de santé, je te remets aussi, Seigneur, cette sœur qui a dû se faire procéder à l'ablation d'un sein. Seigneur, on te demande de la bénir, on te demande de poser tes mains. Et Seigneur, en ton nom, nous disons à toute cette infection, tu pars au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus sur chacun de nous. Et je te demande pour tous ceux qui auraient quelques problèmes dans leur cœur, qu'ils puissent venir à toi. Si nous avons nos barques vides, Seigneur, nos filets vides, nos cœurs vides, eh bien nous venons à toi, parce que tu es la solution. Merci pour ce poisson que tu as préparé. Merci pour ce feu qui ranime mon cœur, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es la résurrection et la vie. Et Seigneur, tu dis que si quelqu'un meurt, quand bien même il serait mort, eh bien, vivra parce que je suis la résurrection et la vie. Merci de nous garder. Je te demande, Seigneur, de prendre cette journée, la fin de cette journée entre tes mains et de faire que nous puissions jour après jour t'aimer plus dans le nom de Jésus. Amen.